Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'actualité internationale est désormais dominée par un sujet, un seul, la santé, notre santé, alors que de nombreux pays du monde se barricadent face à l'épidémie du nouveau coronavirus, le Covid-19. Ces événements inédits en termes de santé publique ont un impact pour chacun, chacune d'entre nous, dans nos relations, dans nos déplacements, dans notre façon de voir les choses et de voir les autres, d'envisager l'organisation de nos journées, de faire des projets également, de penser à ce qui est vraiment important. Et ce qui, finalement, n'est qu'accessoire. Notre santé, nous le disons chaque jour dans cette émission, si elle a un coût, elle n'a pas de prix. Et nous allons donc continuer à répondre à toutes vos questions avec une émission que nous allons désormais organiser autrement, en donnant la parole aux spécialistes des maladies infectieuses en début d'émission pour un point, prévention, état des lieux, prise en charge. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le professeur Rapp, infectiologue. Et puis, nous aborderons notre thème du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder la santé du foie, le plus volumineux de nos organes, maladies et troubles qui l'affectent, qui peuvent être causés par des facteurs différents, virus, génétiques, parasites, habitudes de vie, pathologies qui peuvent avoir de très lourdes conséquences pour la santé, hépatites au pluriel, stéatose, cirrhose, atteintes inégalement réparties sur la planète, leur fréquence étroitement liée à l'accès à la prévention, notamment par le biais de la vaccination. Également, elle dépend, eh bien, cette santé du foie, de l'accès au traitement, comme de certaines habitudes. Prévenir, dépister, diagnostiquer, prendre en charge les hépatites et autres maladies du foie. En ligne avec nous, le professeur Jean-Michel Pavlovski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépatologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne et vous dirigez le Centre national de référence des hépatites virales B, C et Delta. Et tout à l'heure, on retrouvera en ligne de Mauritanie le professeur Mohamed Ayé, hépato-gastro-entérologue au Centre hospitalier de Nouakchott. Le professeur Ayé qui enseigne l'hépato-gastro-entérologie à la faculté de médecine de Nouakchott.
Priorité santé sur RFI.
Mais pour commencer, on va retrouver tout de suite le professeur Christophe Rapp. Bonjour professeur. Le professeur Christophe Rapp en ligne avec nous. Bonjour. Des difficultés pour joindre le professeur Rapp. Je vais tenter une troisième fois, sans quoi nous tenterons de le joindre plus tard dans l'émission. Professeur Rapp. Non, vous n'êtes plus en ligne. Alors, on va retrouver le professeur Jean-Michel Pavlovski, qui lui est bien en ligne avec nous. On interrompra notre échange, si vous le voulez bien, professeur Pavlovski, dès que nous aurons le professeur Rapp en ligne. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle des atteintes du foie sous cet angle bien particulier que nous rappelle l'actualité en ce moment. Les avertissements particuliers pour les personnes ou patients vulnérables, hein, on l'entend depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Maladie bénigne pour l'essentiel de la population, mais qui peut déboucher sur des complications particulièrement préoccupantes pour une partie des habitants de cette planète. Est-ce que certains des patients que vous traitez en hépatologie, cette spécialité qui concerne donc la santé du foie, professeur Pavlovski, ces patients font partie des personnes jugées, on va le dire, plus fragiles, à risque face à l'épidémie actuelle?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pour l'instant pas énormément d'informations. On a des informations cliniques qui viennent de Chine, de plus en plus qui arrivent d'Italie, et puis nous faisons progressivement, malheureusement, notre expérience au quotidien. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui sont atteintes de certaines maladies chroniques sont plus vulnérables à cette infection et vont plus souvent développer des formes graves de la maladie. C'est le cas pour les patients diabétiques, hypertendus, etc. Le virus ne semble pas pouvoir infecter le foie, mais quand même, au cours de l'infection, on va voir une réaction qui est sans doute liée à la réaction inflammatoire avec des anomalies hépatiques qui vont être visibles dans un certain nombre de cas. Donc il y a un certain nombre de patients qui sont a priori plus vulnérables que les autres avec des maladies du foie. Ce sont évidemment les patients qui ont une maladie avancée, c'est-à-dire une cirrhose, avec le risque de décompensation de cette cirrhose au moment de l'infection et de développement également de manifestations plus graves. Encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de données, il va falloir voir ce qui se passe. Et puis, l'autre groupe de maladies du foie qui est clairement vulnérable, ce sont les patients qui sont immunodéprimés, donc qui ont une réponse immunitaire qui est moins armée pour faire face à l'infection. Alors, ça comprend les malades qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs, par exemple, après une greffe du foie, les malades qui reçoivent un traitement contre le cancer ou les malades qui reçoivent des corticoïdes dans le cadre du traitement de maladies auto-immunes.
Une question complémentaire très importante à ce sujet, ce n'est pas parce que ces traitements rendent plus fragiles qu'il faut en aucun cas les arrêter. Et là, il faut vraiment insister sur ce point, professeur Pavlovski.
Absolument, il ne faut surtout pas arrêter quoi que ce soit sans l'avis évidemment de son médecin et en particulier de son hépatologue. Et si des décisions thérapeutiques doivent être prises chez les malades, elles sont prises par le médecin et non pas par le malade. Et en tout cas, les personnes qui ont des maladies chroniques et qui prennent des traitements au long cours ne doivent en aucun cas les arrêter sans avis médical.
Professeur Jean-Michel Pavlovski, je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes. Nous retrouvons tout de suite le professeur Christophe Rapp en ligne, en espérant qu'il soit bien là cette fois-ci. Professeur Rapp.
Oui, bonjour.
Enchanté et merci infiniment de vous être rendu disponible pour Priorité Santé. Les derniers développements qui concernent donc cette épidémie en France, mais bien sûr dans le monde, on va insister, hein, c'est tout l'objet de Priorité Santé sur les conseils et la prévention. Professeur Rapp, vous êtes donc infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président aussi de la Société française de médecine du voyage. Déclaration ce matin qui concerne donc cette fois la France. C'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui dit « la situation se détériore ». Très vite, hein, je le cite, le nombre de cas double désormais tous les trois jours. Professeur Rapp, cette évolution de l'épidémie, cette progression, est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible ?
Alors oui, hein, tout à fait. Là, on fait face à un défi sanitaire hors norme et on est en France au cœur de la vague épidémique. Elle était attendue. On a un décalage d'une quinzaine de jours avec les Italiens, mais on voit qu'on arrive à un scénario à l'italienne, où le nombre de cas va augmenter progressivement et assez rapidement. Et donc, c'est l'heure de la mobilisation à la fois du système sanitaire et puis l'heure de la mobilisation de tous les citoyens avec les consignes de confinement et la recommandation prioritaire qui sont pour les gens non indispensables de rester à la maison.
Alors justement, on entend beaucoup ce mot, d'ailleurs décliné sous différentes formes, le mot barrière, mesure, barrière, consigne. On les rappelle, on ne les répète jamais assez souvent. C'est d'abord distanciation. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur Rapp ?
La distanciation, ça veut dire en fait limiter les contacts physiques avec les autres individus pour éviter la transmission interhumaine par voie aérienne ou par voie contact. C'est une mesure efficace dans les épidémies de voie respiratoire et c'est ce qui motive le confinement à domicile pour limiter les déplacements en dehors d'aller faire ses courses ou d'aller à la pharmacie.
Et y compris justement quand on se rend dans ce genre de commerce, on le dit, qui sont donc restés ouverts en France en ce moment, on respecte une certaine distance avec les autres, on évite en tout cas de se presser, de se serrer.
Tout à fait, il faut effectivement organiser un petit peu les commerces qui resteront ouverts et il faut utiliser des mesures de précaution en respectant les distances, en étant discipliné. Bon, c'est quelque chose de difficile à faire en phase épidémique puisqu'il y a une certaine tension dans la population, mais il faut répéter ces messages.
Répéter aussi les messages d'hygiène les plus importants, les plus évidents, les plus simples, mais on le redit, ce fameux lavage des mains.
Bien entendu, hein, le lavage des mains est très efficace. Il faut le répéter toutes les heures et à chaque fois qu'on est dans une situation de contact avec une personne ou qu'on va toucher une surface, prendre le métro, etc. Donc, lavage des mains avec l'eau et le savon et éventuellement avec une solution hydroalcoolique.
Quand on n'a pas l'eau à portée de main, crise sanitaire inédite, hein, on l'a dit, conséquences multiples. On parlait tout à l'heure des personnes les plus vulnérables avec votre confrère, le professeur Pavlovski. Des centaines maintenant de personnes en réanimation dans les hôpitaux français avec évidemment professeur Christophe Rapp, hein, ce risque de saturation des services hospitaliers. On n'en est pas encore là, même s'il existe déjà des tensions régionales.
Tout à fait. En fait, la particularité du coronavirus, c'est l'importance des formes graves. Il y a quasiment 10% des gens qui vont directement dans des services de soins intensifs. Et on a notamment dans le Grand Est une tension importante liée au cluster qui était à Mulhouse. Et en Ile-de-France, le nombre de patients en réanimation augmente très très rapidement. Donc il faut absolument mobiliser les capacités de réanimation et de soins continus des hôpitaux publics et privés pour arriver à prendre en charge les patients.
Professeur Rapp, samedi, le chef du gouvernement français a donc annoncé la fermeture d'un certain nombre de lieux, restaurants, bars, écoles fermées. Hein. Tous les parents de France le savent maintenant depuis ce matin sur l'ensemble du territoire. Les enfants restent à la maison, les jeunes aussi, hein, puisque les universités sont également fermées. Des mesures de ce type sont désormais prises dans de nombreux pays. Également des restrictions en termes de voyage, aéroports qui ferment, l'Argentine ferme ses frontières, état d'urgence en Serbie, l'Autriche confine. Est-ce que ce type de mesures sont efficaces?
Alors oui, on sait que c'est efficace si c'est bien respecté. Donc toute l'importance, c'est de faire prendre conscience à la population de l'importance d'appliquer immédiatement ces mesures, puisqu'on sait que chaque jour perdu augmente de 40% le risque de contamination et va donc augmenter le nombre d'hospitalisés ou de décès. Donc là, il y a vraiment des consignes impératives à donner dans la population et une prise de conscience collective de l'intérêt de ces mesures qui vont permettre d'écrêter la courbe épidémique et d'éviter la saturation hein, des services de réanimation pour absorber la prise en charge des patients.
Bien sûr, on ne peut pas parler de prévision, mais on s'interroge forcément en termes de visibilité pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Le comité scientifique se réunit en lien direct avec les autorités politiques. Est-ce qu'il y a justement, professeur Rapp, quand on travaille en épidémiologie, en infectiologie, une possibilité d'anticiper où tout se passe vraiment au jour le jour?
Alors il y a des modélisations mathématiques, hein. Un certain nombre de travaux ont été demandés par les différents États. La France, au sein de ce comité scientifique, a présenté au président des modélisations. Ces modélisations ne sont pas toujours justes, elles dépendent de plein de paramètres qui sont complexes. Mais oui, il y a des possibilités d'éclairer la décision par des simulations qui permettent d'envisager la prise de décision. La difficulté, c'est que tout va extrêmement vite, on le voit d'une journée à l'autre, la situation est très évolutive et donc la prise de décision est très complexe.
Avec aussi une question très concrète qu'il va falloir régler, c'est quand il y a confinement, quand il y a isolement comme ça, c'est comment on fait avec les personnes âgées? Cette problématique est bien particulière. Il n'y a pas de visite, on le sait, dans les centres médicaux qui prennent en charge les personnes âgées, mais il y a aussi toutes ces personnes isolées. Comment est-ce qu'on va faire face à ce défi? Une population, on le sait, vieillissante en France, avec un certain nombre de personnes qui se retrouvent chez elles. Comment concrètement ces choses peuvent s'organiser? Comment on fait?
C'est un défi tout à fait nouveau et il faut effectivement, entre les familles, les médecins traitants, les infirmiers à domicile, voir comment on peut organiser ça. Il faut souligner également que le Comité national d'éthique a été invité à nous donner des recommandations sur cette thématique qui est tout à fait nouvelle.
Limiter les déplacements, hein, on le répète et on ne le redira jamais assez. C'est encore et toujours un message à faire passer, professeur Rapp, cette fameuse distanciation qui reste absolument essentielle aujourd'hui si on veut freiner la progression du virus.
Tout à fait, oui. Là, je crois que le rester chez vous, c'est vraiment ce qu'il faut marteler à la population. C'est une situation inédite pour quelques semaines, mais ça va avoir un coût, mais ça n'a pas de prix. Hein. Il faut vraiment être très, très responsable pour laisser les professionnels de santé travailler et prendre en charge les patients.
Restez chez vous et lavez-vous bien les mains. Merci infiniment, professeur Christophe Rapp. Et je sais qu'on aura l'occasion de vous retrouver au cours de cette semaine dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'Hôpital américain de Paris. On vous retrouve, professeur Jean-Michel Pavlovski, pour parler de cet organe vital, le foie. On va commencer par parler du foie quand il va bien, ses fonctions, petite leçon d'anatomie. Lorsque l'on se palpe l'abdomen, on le trouve où exactement, le foie?
Alors le foie est situé à droite, tout en haut de l'abdomen, sous le diaphragme. Et on peut parfois le sentir en mettant ses doigts en crochet sous les côtes, comme ça, à droite. Et en respirant à fond, vous allez sentir un petit truc mou qui va faire un petit déclic, c'est votre foie. Et en général, c'est un petit peu sensible. Et si votre foie va bien, vous le sentirez très mou.
Et justement, quand notre foie va bien, il sert à quoi précisément ?
Alors le foie, c'est un organe extrêmement important pour l'organisme. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans foie. On peut vivre avec un rein en moins, mais on ne peut pas vivre sans foie. Certains disent que le foie, c'est le cerveau de l'abdomen. Il a en réalité quatre grandes fonctions majeures. La première fonction, c'est d'assurer le métabolisme des glucides, c'est-à-dire les sucres, et des lipides, c'est-à-dire le gras. Donc tout ce qui va arriver sous forme de sucre ou de gras par la digestion va être transformé par le foie et stocké au niveau du foie pour être redistribué à l'organisme en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est déjà une fonction qui est très importante. La deuxième fonction essentielle, c'est que le foie assure la synthèse de nombreuses protéines sanguines qui jouent un rôle très important dans notre santé, l'albumine, l'hémoglobine, les facteurs de coagulation. La troisième fonction du foie, c'est d'assurer la détoxification des substances toxiques. Quand on mange, il peut y avoir des substances qui sont un peu toxiques qui vont être détoxifiées. Lorsqu'on prend des médicaments, ils vont être détoxifiés au niveau du foie. Et l'alcool, par exemple, lorsqu'on boit de l'alcool, et on y reviendra certainement, cet alcool va aller dans le foie directement et y être détoxifié. Et puis enfin, la dernière fonction du foie, c'est de produire de la bile avec des acides biliaires. Et cette bile est déversée dans l'intestin et va servir à aider la digestion. Donc des fonctions qui sont vraiment très importantes et dont on comprend bien qu'elles sont vitales et qui, si elles sont altérées, vont mettre en danger la vie des sujets.
Certaines maladies du foie peuvent entraîner des symptômes, professeur Jean-Michel Pavlovski. Par contre, certaines pathologies, même graves, peuvent se développer sans signes visibles. Alors, quand on veut prendre des nouvelles de la santé de son foie, quels examens sont particulièrement utiles ?
Alors en effet, les maladies du foie se traduisent par très peu de symptômes avant d'être très avancées. Et en réalité, les symptômes n'apparaissent pratiquement que lorsque les patients sont arrivés à un stade avancé de cirrhose ou de complications de la cirrhose. Donc on peut passer complètement à côté de ces maladies du foie pendant un temps très prolongé. En revanche, très souvent les patients qui ont une maladie du foie vont avoir des perturbations de leur bilan hépatique sanguin. Et en réalité, si on fait une prise de sang, on peut rechercher un certain nombre de marqueurs, par exemple ce qu'on appelle les transaminases sanguines qui peuvent être élevées, l'alanine aminotransférase ou l'aspartate aminotransférase, les gamma-glutamyl transférase qui peuvent être élevées aussi. Voilà, il y a un certain nombre de marqueurs sanguins qui peuvent nous alerter si on est un sujet à risque de maladie du foie sur la présence d'une telle maladie. Et puis, il y a également la possibilité de réaliser des tests d'élastométrie. Alors, ça ne se fait pas beaucoup en dépistage aujourd'hui, mais certains de mes collègues pensent qu'on pourrait imaginer de dépister des anomalies de structure du foie par ces tests d'élastométrie, qui sont un petit peu comme une échographie, très simple à réaliser, de façon systématique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a peu de signes d'appel sous la forme de symptômes, et c'est un problème pour le diagnostic des maladies du foie.
Alors, dans quelques instants, on va donner la parole à nos auditeurs. J'ai une question en termes de fréquence de ces maladies, professeur Jean-Michel Pavlovski. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de géographie, de répartition régionale, avec certaines pathologies beaucoup plus présentes dans certaines régions du monde et d'autres dont la prévalence est beaucoup plus faible?
Alors absolument, les maladies du foie d'abord sont extrêmement présentes partout dans le monde et la mortalité globale par maladie du foie aujourd'hui sur le monde entier est estimée à environ 2 millions de personnes par an, 1,2 million de cirrhoses et 800 000 de cancers du foie. Les deux étant souvent liés puisque le cancer du foie se développe très souvent, le plus souvent, chez les malades qui ont une cirrhose. En revanche, les causes varient selon la région. Les causes les plus fréquentes et de très loin d'hépatites virales de maladies du foie dans le monde sont les hépatites virales chroniques B et C. Et on a également des causes métaboliques qui sont très importantes, l'alcool, évidemment, et puis ce qu'on appelle communément la maladie du soda ou de façon moins commune la stéatohépatite non alcoolique, qui est une maladie liée à l'accumulation de lipides, et on comprend bien qu'en fonction des régions, on va avoir des prévalences différentes. Par exemple, en Asie, Chine, Asie du Sud-Est, ou en Afrique subsaharienne, c'est l'hépatite B qui est de très loin la principale cause des maladies du foie.
Professeur Pavlovski, je vous coupe juste pour vous dire que ça veut dire, et on le répète bien à nos auditeurs, on peut avoir une cirrhose du foie sans consommer d'alcool.
Absolument. Donc, dans ces régions d'Asie et d'Afrique, les causes principales et de très 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 loin de maladies chroniques du foie, cirrhose et cancer du foie, ce sont les hépatites virales et en point numéro un, l'hépatite B. En France, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où l'alcool joue encore un rôle très important. L'hépatite C est une cause également très importante de maladies chroniques du foie, à peu près à égalité avec l'alcool, et puis parce que c'est une espèce d'épidémie, on parle d'épidémie, c'est une épidémie un peu différente, mais c'est une épidémie mondiale, les maladies métaboliques liées à la malbouffe et à la surcharge d'apport en glucides qui donnent la stéatohépatite non alcoolique est en train de progresser très rapidement en France, en Europe et un petit peu partout dans le monde.
On comprend donc qu'il y a un certain nombre de ces maladies qui sont directement liées à notre hygiène de vie. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Une question Facebook avant de prendre un auditeur en ligne. C'est une question de Pascaline qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et justement, on parlait de la cirrhose. Elle nous demande, est-ce qu'il existe un régime alimentaire particulier pour les personnes qui ont déjà développé une cirrhose ?
Alors, si la cirrhose est bien compensée, c'est-à-dire que le foie est cirrhotique, si on en faisait l'analyse histologique d'un prélèvement, on dirait, voilà, il y a de la fibrose, il y a des nodules de régénération, mais s'il est bien compensé, à part l'abstinence d'alcool, il n'y a pas de régime particulier, il faut manger normalement, mais éviter bien sûr les boissons alcoolisées.
Voilà pour cette réponse. On prend tout de suite Mamadou en ligne. Il est en Guinée, dans la ville de Forécaria. Bonjour Mamadou.
Bonjour Madame Caroline. Bonjour aux différents docteurs en ligne et bonjour aux fidèles auditrices de la Radio du Monde.
Merci à vous Mamadou. Le professeur Pavlovski vous écoute. Allez-y, racontez-nous.
Ok docteur, moi j'ai deux questions. La première est la suivante. Mmh. La première, je suis déjà diagnostiqué de l'hépatite B. Mmh. Je souhaite savoir quel régime alimentaire est adapté à une personne atteinte de l'hépatite B. Là, c'est la première question.
Oui.
La seconde, quel espoir de vie pour des personnes atteintes de ces arts d'hépatite ?
À moi de vous poser des questions, Mamadou. Vous avez quel âge et depuis quand est-ce que vous avez été diagnostiqué ?
J'ai 24 ans. J'aurai 25 ans dans moins de 4 mois.
Et vous avez été diagnostiqué il y a longtemps ?
Ça fait cela 2 mois que j'ai été diagnostiqué positif à l'hépatite B dans l'enceinte de la clinique Pasteur qui se trouve au Sénégal.
D'accord. Et suite à des symptômes particuliers ?
Justement, des symptômes particuliers, par exemple, le changement de la coloration des urines, mm-hmm. il y a le jaunissement de la peau mm-hmm. et des yeux. Mm-hmm. Ce sont ces trois symptômes qui sont visibles à l'œil nu.
Donc vous aviez ces symptômes. Et aujourd'hui, vous êtes encore porteur de ces symptômes ?
Moins.
On vous a donné un traitement ?
Non, on ne m'a pas admis un traitement. On m'a donné un rendez-vous. On m'a dit que l'antigénase B est d'abord négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à craindre d'abord. D'attendre 6 mois ensuite, rejoindre le Sénégal, voir l'évolution de la maladie.
Et vous pourrez dans 6 mois retourner pour faire des examens complémentaires ? Ça va être possible ?
Exactement. Ça
très bien.
Possible.
Très bien. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle que vous puissiez être prise en charge correctement. Professeur Pavlovski, par rapport à ce que vient de nous dire Mamadou, lui a des symptômes visibles de cette hépatite. Qu'est-ce que disent ces symptômes ?
Alors, c'est toujours très difficile de faire de la médecine à distance.
Bien évidemment.
En tout cas, vous la faites très bien parce que vous avez posé les bonnes questions. Il y a eu chez Mamadou ce qu'on appelle une jaunisse. Et probablement, et encore une fois, je ne veux pas m'avancer parce qu'il y a d'autres éléments que nous n'avons pas en main, mais tout ça ressemble plutôt à une hépatite aiguë, c'est-à-dire que Mamadou aurait été infecté il y a quelques mois et aurait développé une infection aiguë par le virus de l'hépatite B dans des régions du monde où ce virus circule de façon importante. Encore une fois, sous toute réserve, parce que c'est important que son médecin lui dise exactement ce qu'il a. Mais l'impression que ça donne, c'est celle-là. Et si c'est le cas, l'acquisition du virus de l'hépatite B à l'âge adulte se transforme très rarement en infection chronique. Donc il est plus que probable que dans ce cas-là, il y aura une guérison spontanée de cette infection, même si elle s'est manifestée par des signes, et ensuite une protection contre la maladie. Mais enfin, quand même, dans un petit nombre de cas, les patients peuvent développer une hépatite chronique B, et c'est pourquoi il est extrêmement important d'être revu par le médecin qui l'a vu, que ce médecin lui dise soit, voilà, vous avez fait une hépatite aiguë B, elle est guérie, donc c'est bon, vous êtes protégé. Ou alors, votre maladie est en train d'évoluer, et dans ce cas-là, évidemment, envisager la discussion d'un traitement, puisque nous avons aujourd'hui des traitements qui sont efficaces contre le virus de l'hépatite B. Ce sont des traitements qu'il faut prendre toute la vie, mais qui sont bien tolérés et qui existent aujourd'hui sous une forme générique, donc qui ne sont pas extrêmement chers et qui sont donc abordables, y compris en Afrique.
Donc ce qu'on comprend bien, c'est que Mamadou a suivi le bon processus avec ce nouveau rendez-vous très important dans 6 mois pour suivre l'évolution de son état. Très bonne journée à vous Mamadou et merci beaucoup pour cette question. J'ai une question complémentaire d'Innocent qui est au Togo, à Lomé. Si une personne est testée positive à l'hépatite B, est-ce qu'elle peut encore être vaccinée ?
Alors, si on est positif à l'hépatite B, c'est-à-dire si on est porteur de l'antigène HBS, parce qu'il y a différents marqueurs, alors ça crée parfois un petit peu de confusion. Si on est porteur de l'antigène HBS, et donc porteur chronique du virus B, ça ne sert à rien de se vacciner. Il faut vacciner les gens qui n'ont jamais rencontré le virus de l'hépatite B, et la vaccination est très efficace, très bien tolérée et protège extrêmement bien.
Et cette vaccination, elle se fait avec plusieurs injections ?
Alors oui, c'est 3 injections successives. C'est important de faire les 3. Et ensuite, c'est une protection qui est extrêmement efficace.
J'ai une question de Jimmy qui est en Ouganda. Y a-t-il des avancées en matière de traitement contre l'hépatite B ? Vous nous disiez tout à l'heure, professeur Pavlovski, qu'un traitement existe quand il y a une hépatite chronique, un traitement à vie. Un problème qui a déjà été posé par de nombreux auditeurs de Priorité Santé, c'est sa prise en charge parce que ça coûte cher au quotidien.
Alors oui, ça coûte cher au quotidien, mais c'est très important que dans les pays où l'hépatite B est très présente, et en particulier les pays d'Afrique et les pays d'Asie, le traitement soit mis à disposition. Alors évidemment, ça relève pas de nous, ça relève des États, ça relève de la capacité de mettre en place ces traitements, mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des traitements qu'on va prendre à vie, ça c'est un problème parce qu'effectivement ça peut peser sur un budget, très bien toléré, il y a 2 médicaments, le tenofovir et l'entecavir, ils font diminuer la multiplication du virus de façon très importante et en général elle devient indétectable et ils vont améliorer le pronostic de façon considérable. Donc c'est vraiment très important que ces traitements qui existent soient en accès libre pour les patients qui sont infectés. Et avant de parler, c'est vrai qu'en Europe, aux États-Unis, on parle de nouveaux traitements qui pourraient permettre d'arrêter les traitements au long cours, etc. Tout ça nous entraîne dans très longtemps et on ne sait pas vraiment si ça va aboutir. On a aujourd'hui un excellent traitement pour l'hépatite chronique B et la priorité des priorités, c'est de rendre ce traitement accessible
au plus grand nombre.
Absolument.
Comme ce qui a pu être fait pour les antirétroviraux dans la lutte contre le VIH.
Exactement, c'est la même problématique, à la différence que pour les antirétroviraux du VIH, il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits pour permettre l'accès, et aujourd'hui, le traitement du VIH est accessible partout dans le monde parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui le permettent. Et malheureusement, l'hépatite B est totalement négligée, alors qu'elle tue énormément de personnes dans les mêmes régions, et on est aujourd'hui dans une situation de paradoxe extrême, ou comme il existe un traitement qui est actif à la fois sur le VIH et sur l'hépatite B, dans certaines régions, en particulier en Afrique subsaharienne, seuls les patients qui sont co-infectés par le VIH ont accès à ce traitement contre le VHB. Et s'ils sont infectés par le virus de l'hépatite B tout seuls, ils n'ont pas accès. Et ça, c'est quand même un problème tout à fait anormal.
Un problème anormal pour lequel plaident un certain nombre de médecins et d'organisations. On va prendre un autre auditeur. On rejoint le Togo Lomé avec Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute. Posez votre question au professeur Pavlovski. Allez-y.
Merci. Bonjour professeur.
Bonjour.
Au fait, j'ai été diagnostiqué à l'hépatite B, positif à l'hépatite B, il y a un moment de cela, ça fait à peu près plus de 6 mois. Mm-hmm. Je suis allé faire les analyses et le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait aucun danger pour l'instant. Mm-hmm. Et il s'est fait que les symptômes, comme par exemple, j'ai l'urine qui est très foncée, des douleurs aux yeux, et j'ai également des douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau du... Et je suis retourné voir le spécialiste, okay, mm-hmm, et il m'a fait faire d'autres analyses. Ça, c'était le 27 janvier passé. Mm-hmm. Donc, après les analyses, il m'a dit également que tout était normal, qu'il n'y avait pas de danger, mais les symptômes persistent. Et je sens la fatigue, une fatigue vraiment, hein, pas possible. Même au réveil le matin, je suis fatigué, hein, à midi, le soir, et j'ai vraiment mal aux yeux. Donc je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, puisque le médecin me dit que les résultats montrent que tout est normal, les fonctions, tout ça, c'est normal.
Professeur Pavlovski, on entend bien Raphaël qui s'inquiète pour ces symptômes qui sont toujours là, alors que son médecin était plutôt rassurant.
Alors, encore une fois, c'est très difficile de faire de la médecine par téléphone, mm-hmm, donc prenez ce que je vais dire avec réserve. Néanmoins, si des symptômes sont présents, ça veut dire que tout n'est pas normal. Si les urines sont toujours foncées, si les yeux sont toujours jaunes, s'il est très fatigué, ça veut dire que la situation n'est pas normale. Il peut s'agir, encore une fois, comme tout à l'heure, d'une hépatite aiguë, donc voir en combien de temps elle va se résoudre et guérir, et là, c'est au médecin de regarder ça. Mais si ça dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à ce moment-là, on est peut-être dans une phase plus avancée de la maladie, et encore une fois, c'est au médecin de vous donner les informations. En résumé, si l'antigène HBS est présent depuis plus de 6 mois, ça veut dire que le patient est porteur chronique du virus de l'hépatite B. Et ça veut dire qu'il faut regarder son niveau de multiplication virale par un test qu'on appelle un test de charge virale ou d'ADN du virus de l'hépatite B. Et puis, il faut faire des explorations du foie, à la fois sur le plan biologique, les enzymes dont je parlais tout à l'heure, et puis également sur le plan morphologique pour voir quel est le degré de sévérité de la maladie du foie. Donc, encore une fois, si les symptômes persistent, ça n'est pas normal. Et il faut bien faire la différence entre une hépatite aiguë qui va se résoudre et le passage à une maladie chronique qui, elle, pourrait nécessiter un traitement.
Raphaël, on l'a bien compris. Donc, la conclusion, c'est de retourner consulter. Vous avez peut-être une autre question également sur la transmission de la maladie?
Je voulais savoir comment faut-il faire pour éviter de transmettre la maladie à mes proches. Mmh. Le médecin m'a dit que c'est une maladie qui est très contagieuse. Comment faut-il pour éviter, hein, de transmettre ça? Et y a-t-il une alimentation qu'il faut adopter, hein, suite à ça pour éviter d'aggraver la situation?
Alors, la question de l'alimentation, on l'a déjà abordée plus ou moins tout à l'heure avec une autre question d'une auditrice. Par contre, en termes de transmission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, professeur Jean-Michel Pavlovski? Qu'est-ce que vous diriez à Raphaël s'il veut protéger son entourage?
Alors, il y a une seule réponse à ça, c'est la vaccination. L'hépatite B, c'est en effet une maladie qui est très contagieuse. Donc, si l'on veut protéger son entourage, il faut vacciner très rapidement toute la famille, tous les gens avec qui on vit, tous les proches. Et sur les vaccins, ils seront protégés de façon très efficace.
Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans votre famille, Raphaël? Votre, je ne sais pas si vous êtes marié, votre épouse est vaccinée?
Oui. Elle est vaccinée. Lorsque j'ai fait mon dépistage est que c'est positif. Elle a fait pour elle et c'était négatif, donc le vaccin.
La vaccination. Et les enfants sont... Vous avez des enfants?
Oui.
Eux aussi ont eu les bonnes vaccinations, les bonnes doses?
Oui, ça a été fait.
Donc ça, c'est la meilleure chose à faire. Merci infiniment, hein, Raphaël, pour ce témoignage. Et une question aussi sur la transmission. Là, c'est une question de Jonathan de Kinshasa qui demande tout simplement si l'hépatite B est héréditaire. En fait, il y a une double question. Il y a la question de l'hérédité. Et puis en même temps, professeur Pavlovski, une deuxième question. Est-ce qu'elle peut se transmettre de la mère à l'enfant?
Alors, Héréditaire au sens de la transmission d'une maladie génétique, non, puisque c'est une maladie infectieuse. Donc, il y a un agent infectieux qui est un virus et qui est transmis de personne à personne. Et les modes de transmission principaux sont la transmission sexuelle aujourd'hui, lors des rapports sexuels, et la transmission de la mère à l'enfant, qui est en particulier très fréquente en Asie, en Chine, en Asie du Sud-Est. Et c'est une transmission qui se fait, comme on dit, en période périnatale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, la mère qui excrète du virus, l'enfant va passer dans les sécrétions de la mère, va passer souvent dans un contexte assez hémorragique et va se contaminer à ce moment-là. Et la prévention de cette transmission de la mère à l'enfant est très importante. Elle consiste d'une part en l'administration d'immunoglobulines qui vont protéger immédiatement l'enfant contre l'infection, et en la vaccination. Et les enfants vont être vaccinés à la naissance, c'est comme ça qu'on va arrêter la transmission mère-enfant, et nous avons des données très intéressantes qui viennent de Chine, qui montrent qu'aujourd'hui, grâce à la vaccination à la naissance, on retombe à des niveaux de transmission et de fréquence de la maladie qui sont équivalentes à ce qu'on trouve aux États-Unis ou en France, alors que dans certaines régions de Chine, on avait 20% de portage chronique du virus de l'hépatite B.
Est-ce que ça veut dire que les mamans sont toutes dépistées avant l'accouchement ou est-ce que ça veut dire que la vaccination est systématique ?
Ça veut dire que... Alors ça veut dire deux choses. La première, c'est que les mères doivent être toutes dépistées avant l'accouchement. Très important, le fait de venir pour une grossesse et de suivre pour une grossesse doit faire dépister pour le virus de l'hépatite B. Et si la mère n'a pas été suivie, ce qui arrive de temps en temps et arrive pour l'accouchement, le test doit être réalisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les enfants devraient être vaccinés à la naissance. Et il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis en place dans certains pays. L'Italie, qui avait une fréquence élevée d'hépatite B, a été une des premières à le faire. La Chine, Taïwan, avec une efficacité tout à fait remarquable. Donc ce vaccin aujourd'hui doit être systématisé chez les enfants dans les premières semaines de vie.
Est-ce que c'est une question de Assis qui est au Burkina Faso à Bobo Dioulasso? Est-ce que justement faire les injections, avoir les trois doses, ça garantit l'immunisation? Est-ce que c'est efficace à 100%?
Alors oui, c'est efficace à pratiquement 100%. On est à 99,90%. Donc c'est un vaccin qui est extrêmement efficace, en particulier chez l'enfant. On a des réponses systématiques. Il peut y avoir certains adultes, en particulier ceux qui souffrent de diverses pathologies chroniques, qui sont un peu moins répondeurs et qui vont avoir besoin de doses renforcées. Mais enfin, c'est un vaccin qui est très, très, très efficace. C'est le premier vaccin qui, dans l'histoire de la médecine, a réduit l'incidence de cancer. Donc c'est un vaccin qui n'est pas seulement un vaccin contre une maladie infectieuse, mais c'est un vaccin qui protège également contre le cancer du foie. Et on a vu, encore une fois, en Chine et à Taïwan, une diminution très importante de la survenue des cancers du foie grâce à ce vaccin.
Hépatite B qui suscite beaucoup de questions de nos auditeurs, comme Moussa qui vit en France. Il nous dit « J'ai 35 ans, je suis atteint d'une hépatite B chronique, je me sens bien, bien dans ma peau, je n'ai pas de soucis. Est-ce que ça peut se dégrader ?» Alors bien sûr, on ne lit pas dans l'avenir, mais quand on est atteint d'une hépatite B chronique et qu'on ne prend pas de traitement, qu'est-ce que vous diriez à ce patient, professeur Pavlovski ?
Alors, toute maladie chronique peut s'aggraver. Donc, s'il y a une maladie chronique liée au virus de l'hépatite B, elle peut s'aggraver. C'est très important que les patients soient vus par un médecin, soient évalués de façon très complète sur la biologie du foie, sur la morphologie du foie. Ont-ils une hépatite chronique? Ont-ils une cirrhose? Ont-ils une cirrhose avancée? Il est très important également qu'ils soient évalués sur le niveau de multiplication du virus. Et ensuite qu'une décision thérapeutique puisse être prise et qu'il y ait un accès au traitement. Encore une fois, la seule façon, mais la meilleure façon, une façon très efficace de ralentir de façon très importante la progression de la maladie, c'est le traitement. Le traitement au long cours par le tenofovir ou l'entecavir qui a montré son efficacité. Donc il faut faire un bilan très précis, il faut décider s'il y a une indication thérapeutique et il faut donner accès au traitement. C'est vraiment, vraiment très important et ça prévient très efficacement l'évolution de la maladie et les complications.
Professeur Pavlovski, vous restez avec nous. On part tout de suite pour la Mauritanie.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne avec nous, professeur Mohamed Ayé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue au centre hospitalier de Nouakchott. On parle donc de ces pathologies du foie. Professeur Haillé, quels sont les principaux motifs de consultation chez vous, comme on dit en hépato, que vous voyez donc à Nouakchott ?
Bonjour madame, je salue mon confrère, professeur Pavlovski.
Bonjour.
Salut tous. Bonjour. Et nous, nous sommes un pays à haute endémie pour l'hépatite B. Mm-hmm. Malheureusement, la consultation, c'est surtout les hépatites. On va jusqu'à 10 à 18% de la population qui sont atteintes de l'hépatite virale B. Ça, c'est le premier motif de consultation. Et c'est une maladie chronique, donc les consultants reviennent et reviennent et reviennent. Mm-hmm. On n'a pas à en finir. Et le deuxième problème, c'est un peu la stéatose hépatique. Mais on est rarement au stade de stéato-hépatite, c'est-à-dire l'accumulation un peu des graisses sur le foie. Et donc, c'est à peu près le 2. Bien sûr, sans compter les complications de l'hépatite B, qui sont la cirrhose et le cancer du foie. Mm-hmm. Malheureusement, on en trouve souvent ici. Le diagnostic n'est pas précoce comme ça se fait en Europe, parce que pratiquement tous les spécialistes sont à Nouakchott, la capitale, ils ne veulent pas se délocaliser. Donc ça, les gens viennent souvent un peu à un stade avancé, donc un stade tardif au niveau du cancer ou une cirrhose très décompensée.
Problème d'accès, on disait tout à l'heure avec le professeur Pavlovski, au traitement, mais aussi tout simplement aux soignants. Précisément, professeur Mohamed Haillé, ces patients vous sont adressés par d'autres médecins. Ils viennent suite à quels symptômes ?
Ils viennent souvent, rarement, on a rarement des hépatites aiguës, rarement on a des hépatites aiguës, de temps en temps, très rarement, mais c'est surtout au stade d'infection chronique, c'est-à-dire un portage chronique de l'hépatite B, ou la cirrhose, ou le cancer. C'est surtout à ce stade que nous, le plus souvent, nous diagnostiquons c'est cette pathologie. De rares cas, si un membre de la famille est parti faire un don de sang, et on lui... Il a un portage de l'antigène HBS. Finalement, c'est un peu une sorte de panique au niveau de la famille et de l'entourage. Et certaines personnes viennent consulter directement, s'il vous plaît, regardez si j'ai l'hépatite.
Mmh. Vous regrettez, j'imagine, dans beaucoup de cas, professeur Haillé, des prises en charge plutôt tardives, même si, bien évidemment, ce n'est absolument pas la faute des patients.
Oui, bien sûr, c'est le fait de délocaliser les médecins. Actuellement, on commence un peu à décentraliser ces dernières années, avoir un peu des laboratoires uniquement pour le dépistage de l'antigène HBS, parce que du moment où on a vu son importance, alors l'État a pris des mesures pour que chaque région pratiquement ait un laboratoire pour déterminer la présence ou le portage de l'antigène HBS.
Et en matière de couverture vaccinale, professeur Mohamed Haillé, où en est la Mauritanie aujourd'hui ? Est-ce que c'est satisfaisant ?
Oui, c'est un peu satisfaisant.
Ah, la ligne vient de se dégrader subitement, si la technique nous joue des tours. Professeur Haillé, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Alors on en revient sur la vaccination, c'est important.
Oui. En 2004-2003, nous avons fait des études. On a remarqué l'importance de l'hyperendémie, je vous ai dit, jusqu'à 18% chez les femmes enceintes, chez le milieu scolaire et chez les adultes et les donneurs de sang. Alors l'État a pris la mesure de faire la vaccination et de l'ajouter au programme élargi de vaccination qui contient les 5 anciennes les anciens vaccins. Qui sont la polio, ainsi que le tétanos, et on a ajouté la vaccination pour l'hépatite B. Pour le moment, 2005 jusqu'à présent, on va faire des études pour savoir si ça a eu un impact positif ou non. Nous sommes à ce stade-là. Et les gens qui ont 2005, maintenant, ils ont 15 ans. Donc, on peut facilement faire une étude chez les gens qui ont été vaccinés, si le vaccin a vraiment été efficace ou non.
Et donc, on pourra voir les améliorations au niveau général. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, professeur Haillé ?
L'importance, nous avons créé un institut national des pathoviraux. Bien sûr, on l'a créé avec l'équipe d'Angers, professeur Calès.
Et nous sommes en étroite collaboration avec ce professeur et son équipe. Et on a fait l'étude aussi avec l'Agence nationale de recherche scientifique, l'ANRS en France, ce qui nous a permis de déterminer qu'on a un taux élevé de l'hépatite delta à 33%, ce qui est rare et ce qui est élevé quand même chez nous. Et nous sommes en train, l'État prend en charge jusqu'à présent tous les traitements, que ce soit par l'interféron pegylé ou par le tenofovir, qu'on met à la disposition gratuitement de la population.
C'est quelque chose de très important, en tout cas un exemple à suivre hein, sur le continent. Merci infiniment, professeur Mohamed Daye, merci d'avoir répondu à nos questions.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
Accès au traitement, hein, ce qui pose bien sûr la question de la couverture santé. On continue notre échange avec vous, dernière partie de Priorité Santé, professeur Jean-Michel Pavlovski, hépatologue, avec des questions des auditeurs qui peuvent parfois être assez concrètes. On entend parfois, c'est ce que nous dit Constant qui est à Abidjan, dire qu'il y a certaines substances à base de plantes qui peuvent vidanger le foie. Sous nos latitudes, on entend parler beaucoup de détox. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et est-ce que c'est vraiment efficace, professeur Pavlovski? On est aussi là pour battre en brèche certaines croyances.
Absolument. Et toutes ces préparations traditionnelles à base de plantes, d'une part, n'ont jamais fait la preuve de la moindre efficacité, alors que les traitements antiviraux, eux, l'ont bien démontré. Donc c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est encore plus important, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des fonctions principales du foie, c'était la détoxification des toxiques. Et un certain nombre de ces substances sont toxiques pour le foie. Donc elles vont être accumulées au niveau du foie et pouvoir entraîner des anomalies hépatiques et parfois une aggravation de la maladie. Donc il faut faire vraiment très très attention à toutes ces mixtures traditionnelles,
un certain nombre
de tisanes, de traitements par les plantes, parce que non seulement elles ne sont pas efficaces, mais elles peuvent être extrêmement toxiques pour le foie, pour certaines d'entre elles.
J'ai une dernière question. Tout à l'heure, je vous présentais. Hein. Vous dirigez le Centre national de référence des hépatites B, C et Delta. On a parlé de la B beaucoup, de la C un peu. L'hépatite Delta, c'est quoi?
Alors, l'hépatite Delta, c'est un autre virus qui est complètement différent du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C et qui est un satellite du virus de l'hépatite B. Ça veut dire qu'il ne peut pas se multiplier tout seul, il ne peut pas infecter un malade si le virus de l'hépatite B n'est pas présent, mais chez un certain nombre de patients qui sont infectés chroniques par le virus de l'hépatite B, ils vont être surinfectés par ce virus de l'hépatite Delta et ils vont développer des maladies beaucoup plus sévères que les malades qui ont uniquement le virus de l'hépatite B.
Et encore une fois, on va lutter contre les fake news dans Priorité Santé, on est aussi là pour ça. Ça peut faire sourire certains, mais c'est pas drôle du tout. Question de Martine à Cotonou, au Bénin, avec le retour du jus de citron, hein, qui est un de nos amis favoris dans Priorité Santé, plutôt un ennemi. J'aimerais savoir si boire de l'eau tiède avec du citron et du bicarbonate à jeun nettoie le foie. J'ai plutôt l'impression d'entendre parler d'un produit récurrent, plutôt pour faire le ménage, hein, professeur Pavlovski.
Oui, c'est un peu l'impression que ça donne. En tout cas, ça nettoie pas le foie du tout.
Et quand on a un problème de foie, on va voir son médecin.
Quand on a un problème de foie, on va voir son médecin. Je dirais même avant d'avoir un problème de foie, on recommande aujourd'hui en France, et je pense que ça s'applique au monde entier, que toute personne adulte devrait avoir une fois dans sa vie un dépistage systématique pour le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite B et le VIH. Et ce type de dépistage permettra d'identifier beaucoup de personnes et de leur donner un accès au traitement.
Une prise en charge précoce. Merci professeur Jean-Michel Pavlovski, hépatologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Demain dans Priorité Santé, nous allons revenir sur le coronavirus. Toujours la prévention, limiter la propagation. Nous parlerons des personnes les plus vulnérables. Posez-nous vos questions, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape. RFI.